France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Bonjour François Héran.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur au Collège de France, vous êtes aussi démographe. Et votre dernier livre a pour titre « Lettre au professeur sur la liberté d'expression » paru aux éditions La Découverte. Et votre présence ce matin, c'est aussi une façon pour nous à France Inter de clore une semaine d'antenne consacrée à la presse à l'école. Alors votre livre commence par une première lettre, celle que vous aviez publiée en ligne deux semaines après l'assassinat du professeur Samuel Paty. C'était votre première réflexion et des réponses déjà aussi aux professeurs qui s'interrogent désormais de plus en plus sur leur métier dans ce monde en violente évolution. D'ailleurs, est-ce bien la notion de liberté d'expression qui est au cœur de leur réflexion face aux élèves aujourd'hui?
Alors, en ce moment, oui, c'est la liberté d'expression. Je retrace d'ailleurs toute l'histoire de cette liberté d'expression, qui était d'abord une liberté essentiellement de la presse, mais qui maintenant devient une liberté...
C'est un principe anglo-saxon, ça, le principe de la liberté.
C'est né, effectivement, c'est d'abord les Anglais qui luttent pour la liberté de la presse, et puis ensuite, ça s'est transféré aux États-Unis. Il y a des déclarations de droits, en Virginie notamment, très tôt, et les députés de l'Assemblée nationale, de la Constituante, sont parfaitement au courant de ces expériences américaines. Beaucoup d'ailleurs ont fait le voyage aux États-Unis, en Angleterre, notamment les aristocrates qui participent au débat, et c'est eux qui reprennent ces idées, mais ils savent qu'il faut les transposer au cas français, parce que c'est pas la même chose de défendre la liberté d'expression de petites minorités religieuses dans un nouveau pays comme les États-Unis et d'appliquer ce droit dans un vieux pays comme la France avec tous ses privilèges, etc.
Et d'ailleurs ce concept de liberté d'expression dans son acception moderne et française, vous la datez de la Déclaration universelle de 1948.
Oui, alors la formule liberté d'expression, la formule littérale liberté d'expression n'existait pas sous la Révolution française. Il y avait une liberté de communiquer ses pensées par tous les moyens, quels qu'ils soient, et il s'agissait sous la Révolution de pouvoir critiquer les gens en place, comme on disait, c'est-à-dire la famille royale, les ministres, les évêques, les autorités. En 1948, liberté d'expression, c'est la traduction de freedom of expression. Et là, ça prend un sens. Aujourd'hui, c'est un sens presque individuel. Enfin, c'est devenu presque synonyme de la liberté tout court. Il y a plusieurs libertés.
Souvent tourné autour du pot sur ce concept de liberté proche de la liberté d'expression, vous l'avez dit. Liberté de conscience dans la Déclaration universelle, liberté d'opinion, liberté de pensée. Ce n'est pas véritablement le même concept à chaque fois tout de même.
Alors, la liberté de penser, évidemment, personne ne peut regarder, aucune autorité ne peut regarder ce qui se passe dans votre fort intérieur.
Et donc, ça va peut-être venir.
Le critère, c'est tout de même de pouvoir exprimer ses pensées et les communiquer, évidemment. Et c'est ça que veut dire la liberté d'expression. Mais très tôt, et ça c'est vraiment frappant, en 1789, mais aussi avec la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948, en 1950 avec la Convention européenne des droits de l'homme, tout de suite, il y a deux grandes libertés qui sont définies dans deux articles séparés. C'est toujours la même disposition. Il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de croyance. Ensuite, on dit oui, mais ce sont des libertés fondamentales, mais il faut quand même qu'elles s'exercent dans les limites de la loi.
Donc
il y a une limitation, toujours.
Ça revient toujours.
Mais le problème, c'est que ces limitations, elles risquent d'être liberticides. Et à ce moment-là, c'est à la jurisprudence qu'il appartient de dire, il ne faut pas trop limiter ces libertés, il faut limiter ces limitations, en quelque sorte.
Toutes ces libertés sont limitées par les abus, et finalement, c'est l'abus qui change selon les époques.
Oui, mais il faut... Alors, effectivement...
C'est la notion d'abus qui change.
Ça change selon les époques, ça change selon les pays. Par exemple, un pays ultra-catholique comme l'Autriche avait limite à liberté d'expression de façon tout à fait forte et, à mon avis, excessive. Et puis...
Mais même à l'intérieur d'un pays, ça change.
Absolument. À l'intérieur d'un pays, il y a évidemment des positions variées. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aucune liberté n'est absolue. Il y a un grand principe, c'est que les droits de l'homme ou les liberté fondamentale, ces deux expressions sont synonymes quasiment, eh bien il y a un principe, c'est qu'elles sont indivisibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'une liberté peut écraser ou absorber les autres. Il faut aussi faire droit aux autres libertés, et c'est ça toute la difficulté. C'est qu'il faut articuler les différentes libertés. Il n'y a pas de liberté absolue.
Il n'y a pas de hiérarchie.
Et il n'y a pas de hiérarchie entre les libertés. C'est un grand principe de droit qu'on tend un peu à oublier dans la période actuelle, ça se comprend. Et moi, à titre personnel, je me méfie de tous les absolus.
Mais il y a de toute façon le principe et son application, et là ça marche pas forcément. La liberté de communication et d'expression qui existe dans ses intentions, dès la déclaration de 1789 dans son article 11, mais en fait dans les faits, cette liberté, elle a toujours du mal à voir jour.
Oui, elle est très difficile. Vous savez, les révolutionnaires de 1789, c'était quand même de grands idéalistes, et ils avaient l'idée qu'en affichant partout la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, les citoyens allaient pouvoir comparer leur sort, leur situation, à la déclaration des droits. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de système judiciaire efficace pour faire cette comparaison et reconnaître les droits des personnes. Et en fait, je raconte cette histoire, elle est assez mal connue, c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui apporte ce qu'on appelle la garantie collective, c'est-à-dire que les États qui y adhèrent, eh bien, acceptent que les individus puissent avoir, après épuisement des voies internes, acceptent l'idée que les individus puissent recourir, s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme pour vérifier que leurs droits n'ont pas été combattus. Et le problème d'ailleurs, c'est que la France, qui a pris une très grande part dans l'élaboration de cette Convention européenne des droits de l'homme, Pierre-Henri Teitgen, le premier ministre de la Justice à la Libération, a été le grand homme, l'équivalent de René Cassin pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien la France refuse d'y adhérer. De Gaulle pensait qu'il y avait une atteinte à sa souveraineté, il y avait la guerre d'Algérie, notre article 16 de la Constitution sur les pleins pouvoirs à donner au président de la République en cas de situation grave. Tout ceci a fait que c'est seulement en 1974, 24 ans après, que la France a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. Et maintenant, cette convention, elle est utilisée dans les procès de Charlie Hebdo, le premier procès des caricatures sur Charlie Hebdo, le cœur du jugement donné par le tribunal de Paris, c'est la recopie quasiment intégrale des textes de la jurisprudence européenne des droits de l'homme.
Mais François Héran, il y a un concept que vous développez dans ce livre et qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a au fond deux lectures possibles, disons deux visions. Il y a une liberté offensive et il y a une liberté tolérante.
Oui, alors ça, je le développais dans la première version, dans la lettre adressée au professeur, que j'ai fait ça le 30 octobre 2020. Je développe quand même cet argument. Mais offensif, ça veut dire, ce que reconnaît d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que la liberté d'expression peut blesser, heurter les sensibilités des personnes, les croyants. Il y a des textes qui disent, mais écoutez, il est normal que dans une société démocratique plurielle, les croyants soit effectivement soumis, exposés à des critiques parfois très très dures de leurs croyants. Ça c'est tout à fait normal, ça fait partie de la démocratie.
Oui, mais des critiques, ça fait partie pour certains croyants d'une véritable révolution mentale, parce que pour pouvoir s'intégrer à la nation.
Et je dis que ça effectivement, il faut que les musulmans s'accommodent de ça et l'acceptent. C'est un travail à faire et on voit bien en ce moment là toutes les discussions entre les différentes composantes du mouvement musulman. Certaines acceptent ce principe, d'autres pas. Et je crois que c'est important de le souligner. Donc, le problème, ça n'est pas le fait d'offenser les musulmans. Moi, je ne suis pas contre le fait que les musulmans se sentent offensés dans les croyances, pas plus que les catholiques, les protestants, les juifs, etc. Mais c'est l'offense pour l'offense. Ça, c'est prévu dans le droit, hein, le dolus specialis, l'idée d'offenser, d'outrager pour outrager, sans alibi politique, esthétique, etc. Et ça, eh bien, la loi ne le permet pas. Et il y a donc des différences à faire, au cas par cas. Donc, il faut faire preuve de discernement pour savoir, eh bien, est-ce que c'est un outrage qui fait partie du droit à l'expression, du droit à l'offense, du droit au blasphème, comme on le dit couramment, bien que l'expression ne figure évidemment dans aucun texte, ou est-ce que c'est une volonté de blesser pour blesser, d'outrager pour outrager. Eh bien, il y a des différences à faire. Il faut faire preuve de discernement. Et je dirais qu'un des mots clés de mon livre, c'est le mot discernement. Le sens de la mesure, le sens des proportions, le sens des cas de figure.
Liberté de moquer toutes les religions donc, mais c'est avec l'islam qu'il y a donc les conséquences les plus dramatiques. Pour quelles raisons ?
Il faut traiter toutes les religions de la même façon. C'est vrai que l'islam n'est pas habitué à ces offenses, à ces caricatures. Alors le christianisme l'est un peu parce qu'on a la tradition de ce qu'on appelle le Christ aux outrages, qui est une tradition très tardive en fait. Hein. Elle naît seulement au XVe siècle, elle est encore très soft. Enfin, le récit de la Passion, et nous commençons la Semaine Sainte d'ailleurs, Et donc, si vous êtes attentif au récit de la Passion, ben, vous verrez que le Christ est bafoué, moqué, insulté, on lui crache dessus, etc. C'est un thème un petit peu ambivalent, le Christ aux outrages, parce qu'il y a aussi un côté antisémite dans le développement de cette tradition à partir du 15e, 16e siècle. Et lorsque l'islam naît, donc au 7e, 8e siècle, le christianisme, lui, il a une image du Christ qui est très triomphante. Hein, c'est le Christ Pantocrator, soit le pasteur, soit le Christ en majesté, et il n'est pas question d'outrager le Christ. Donc l'islam naît dans un contexte où il n'est pas possible d'outrager la figure. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que les musulmans, effectivement, apprennent cette possibilité de la caricature. Le problème, c'est que qu'on ne sait pas à quoi ressemblait Mahomet. Quand on caricature Mahomet, on caricature une espèce de caricature, on caricature une image. Et là, montrer par exemple Mahomet complètement nu, en prière, le sexe salaire, etc., dans la position centrale de la prière musulmane, ben, c'est s'en prendre au rite lui-même, c'est s'en prendre à tous les musulmans. Hein. C'est ça la difficulté.
Mais sur les caricatures de Mahomet, précisément, c'est en fait pas aussi simple qu'on l'imagine. Déjà, pour ce qui est de la réaction de l'État, qui ne les a pas soutenus explicitement, mais quand même pas loin, et les professeurs, qui sont en première ligne, et qui ont besoin peut-être d'encadrement et de soutien. Je ne sais pas si vous connaissez...
C'est l'objet de votre livre.
C'est l'objet de votre livre, absolument. Et je ne sais pas si vous connaissez le dispositif que France Inter a mis en place après les attentats de Charlie Hebdo, qui est interclasse, et où on va dans les classes, des producteurs, des journalistes surtout, vont dans les classes, on fait faire des émissions aux élèves, mais on leur explique aussi comment on vérifie la source d'une information, comment ça s'élabore, comment ça se traite, etc., et quelle peut être la hiérarchie des informations. Et il y a un site web, j'en profite pour le dire, un site web qui est interclassup.fr, où il y a toutes les ressources possibles pour les professeurs. Il faut aussi aider les profs.
Alors absolument, j'ai regardé moi-même l'ensemble des ressources mises à la disposition des professeurs, notamment pour préparer la fameuse rentrée de la Toussaint du 2 novembre. Et il y a effectivement beaucoup de choses qui sont proposées, dont celle que vous dites, qui est une des plus actives. Vous voyez, quand vous regardez ce qui est arrivé à Samuel Paty, il l'a dit lui-même dans un des mails qui ont été cités par la presse. Il a montré une caricature trash, c'est l'expression qu'il utilise lui-même, hein, Mahomet nu, prosterné, vu de dos, etc. Il l'a montré pendant quelques secondes, dit-il, et il s'est dit, mais il faudrait peut-être que les élèves qui seraient choqués par ça quittent la salle. Bon. Donc vous voyez que c'est un martyr de la liberté d'expression, Samuel Paty, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Est-ce qu'il était un défenseur de la liberté d'expression absolue? Il avait des doutes là-dessus, il était en désarroi, et certains de ses collègues, ça aussi, ça paraît dans les mails qui ont été publiés, l'ont critiqué pour en critiquer son excès de prudence. Vous voyez à quel point tout ça est compliqué. Alors je pense qu'effectivement, les caricatures, c'est aussi le cas de Dessiner, Créer, Liberté, l'association qui émane directement de Charlie Hebdo. Il faut expliquer, il faut les contextualiser. Et là, il faut tout un travail, et c'est pas effectivement la présentation en quelques secondes. Mais dans mon livre, je prends bien soin...
Là-dessus, même Charles Bécarbu n'était pas forcément d'accord.
Mais... Oui, je m'attarde assez longuement, parce que je trouve que c'est quand même intéressant, sur les débats au sein du milieu des caricatures. Il y a eu au moins trois positions différentes. Il y a la position jusqu'au boutiste, eh bien, puisque les djihadistes vont à fond et critiquent tout ce qu'on peut faire sur Mahomet, eh bien, allons-y nous aussi à fond.
Ça, c'était plutôt la position de Charb.
C'était la position de Charb, qui l'a très très bien formulée. C'est quelqu'un qui formulait très très bien ses idées. Cabu était beaucoup plus prudent. Son fameux dessin sur Mahomet, n'est-ce pas, qui déplore d'être aimé par des cons, eh bien, il y a une légende. Mahomet, Mahomet débordé par les intégristes, qui est indissociable du dessin, volontairement, pour qu'on puisse pas montrer le dessin sans la légende. Et donc, il faisait un effort pour bien dire, attention, je cible pas tous les musulmans, je cible simplement ce qu'il appelait les intégristes, alors ce qui est un peu flou, mais enfin, disons, les extrémistes violents. Et puis, il y a des gens comme Pétillon, qui a travaillé à la fois au Canard Enchaîné à Charlie Hebdo, qui, lui, a critiqué certaines des caricatures en disant, attention, il y a des dommages collatéraux, est-ce qu'on s'en prend à tous les musulmans ou seulement à certains? C'est pas très clair. Il a été à son tour critiqué critiqué par Charles, etc. Et je montre aussi tous les débats entre Le Canard Enchaîné et Charlie Hebdo. Le Canard Enchaîné, enfin, je trouve que c'est bien dans la démocratie qu'il y ait au moins deux hebdomadaires satiriques et pas seulement un seul. Et donc, ben oui, c'est intéressant de revenir sur tous ces débats. Et il ne faut pas que les djihadistes, les attentats, nous privent de cette réflexion. Il ne faut pas que leur laisser à eux le dernier mot. Eux, ils veulent nous pousser à bout, ils veulent absolument nous pousser dans tous les extrêmes. Nous ne devons pas céder à ce système.
Et cette réflexion, vous la détaillez dans ce livre, François Héran, Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression, pour venir en aide aux professeurs qui s'interrogent sur cette notion. Vous commencez d'ailleurs par convoquer les textes républicains pour que les élèves les découvrent. Par exemple, cette lettre de Jules Ferry aux instituteurs, on l'a évoqué pas mal au moment de l'enterrement de Samuel Paty et de l'hommage. On a cru la lire en profondeur, mais pas vraiment. Qu'y a-t-il à lire de plus que ce qu'on a déjà dit sur cette lettre
lors de l'attentat de Samuel Paty, on a surtout lu la lettre de Jean Jaurès, mais enfin qui est très datée, qui évoque le monde agricole, etc. C'est un peu... Jules Ferry, lui, avait dit de façon très claire que, alors il s'agissait des élèves du primaire, mais qu'il fallait qu'un professeur ne puisse jamais, dans son discours, offenser en quoi que ce soit les parents et les enfants. Il a des formules extrêmement dures là-dessus. Alors j'ai reçu des mails vindicatifs me disant, mais enfin, Jules Ferry, c'était un épouvantable colonialiste, il a expliqué au moment de l'affaire du Tonkin qu'il fallait qu'il y avait un droit des races supérieures à coloniser les races inférieures. Ben, c'est compliqué, parce que lui-même a été ensuite un critique du colonialisme. Il a fait une grande mission à plusieurs sénateurs en Algérie, où il explique que finalement les colons n'arrivent pas à comprendre que les indigènes ne sont pas taillables et corvéables à merci, etc. Et puis Clémenceau, qui s'était opposé à Jules Ferry dans la fameuse déclaration sur l'expédition au Tonkin, c'est lui qui va dépecer l'Empire ottoman et recréer tout un système colonial de la France et de la Grande-Bretagne au Proche-Orient. Donc, je dis dans ce livre que tout ça est toujours compliqué, les trajectoires sont complexes et j'essaie d'éviter les affrontements binaires, les affrontements entre les extrêmes. Et au fond, je développe une philosophie du curseur. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut un peu de place pour la liberté de croyance qu'aussitôt il faut qu'on nous repousse de l'autre côté en disant ah ben vous êtes pour la théocratie, vous êtes pour la loi de Dieu qui devrait l'emporter sur la loi de la République. Non, il faut sortir de ces extrêmes et se dire que la vie d'une société, ça consiste à pouvoir vivre dans cet immense intervalle qui est entre ces deux extrêmes et essayer d'y trouver les meilleures solutions.
C'est un peu ce qu'avait dit Emmanuel Macron lors de son hommage à Emmanuel Paty, où il avait lui aussi célébré la liberté d'expression. Qu'aviez-vous retenu de ce discours ?
Eh bien, c'était un discours assez composite, c'est un reproche qu'on fait souvent à Emmanuel Macron. Mais en fait, juste après avoir expliqué que nous ne renoncerons pas aux caricatures, malgré tous ceux qui proposent de reculer là-dessus, etc., aussitôt après, dans les phrases qui suivent, il expose les objectifs de l'éducation nationale et dit que il faut lutter contre les discriminations, offrir toutes les possibilités aux jeunes, qu'il faut apprendre le respect mutuel, qu'il faut également apprendre l'humour, etc. Et moi, je prends au mot cette seconde partie du discours qui n'a pas été relevée par les médias, parce que les médias, évidemment, c'est normal, c'est pas du tout surprenant, ont retenu la phrase « nous ne renoncerons pas aux caricatures ». Mais il y a quand même l'idée que, mon idée, ça a été de prendre au mot le discours d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire, oui, au fond, lutter contre les discriminations, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire pour apaiser un peu le débat dans notre société.
Alors, j'ai le sentiment qu'il y en a un que vous ne portez pas dans votre cœur, c'est le ministre d'Éducation nationale. Vous estimez qu'immédiatement après l'assassinat du professeur Samuel Paty par un jeune djihadiste, le ministre de Jean-Michel Blanquer a attisé les polémiques, c'est-à-dire ?
J'ai été très déçu par Blanquer parce que j'avais vu sa prestation devant le Conseil d'État en janvier 2018, qui est extrêmement brillante, sans aucune note. Il exposait toute sa politique de l'éducation, toutes ses phrases retombaient sur ses pieds. C'était quelqu'un qui a une maîtrise intellectuelle forte. Il faisait l'éloge des expériences scientifiques, des évaluations, etc. Or là, quand il s'est exprimé sur les complicités intellectuelles, n'est-ce pas, qui expliqueraient l'attentat du jeune Abdoulak Anzorov contre Samuel Paty, là il abandonne absolument tout son rationalisme, tout son cartésianisme disparaît, et il se lance dans des accusations qui sont des espèces de causalités très floues, qui ne précisent pas.
C'est la notion d'études intersectionnelles qui rentre dans le débat.
Oui, comme si les études intersectionnelles indigénistes, etc., avaient pu armer le bras de ce malheureux, Enfin, c'est un cas absolument lamentable.
Les études
lamentable.
Intersectionnelles, ça concerne notamment les CV où il vaut mieux postuler alors, quand on s'appelle alors, avec un prénom français
si
plutôt
voulez,
qu'un prénom arabe.
Deux versants, vous avez deux versants.
On n'a que quelques secondes pour conclure.
Voilà. Il y a les militants qui disent, quand on est à la fois femme, quand on est appartient à une minorité, n'est-ce pas, qui est victime de racisme, quand on est au bas de l'échelle sociale, on cumule toute une série de discriminations. Alors, il peut y avoir des versions militantes de ça, et qui s'expriment parfois de façon assez confuse, et bon, et c'est parfois pas toujours lisible, c'est parfois jargonnant. Mais il y a toute une version scientifique, et je cite de grands projets de recherche de la France, qui étudie la façon dont le cumul des discriminations, effectivement, fonctionne dans l'accès aux soins, dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi, etc.
On lira tout cela donc dans votre livre passionnant, hein, François Héran, cette lettre au professeur sur la liberté d'expression. Et le débat est loin d'être terminé, on en reparlera probablement sur France Inter. Merci d'être venu en parler ce matin.
Merci,
sur
Inter.